Le silence à silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit. Là.
Bienvenue dans Récréation Sonore sur Radio Campus Paris, Muriel Caes au micro.
Allô.
There is no such thing as silence.
Le silence n'existe pas.
Allô, c'est bien.
Something is always happening that makes a sound.
Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
Aujourd'hui, Récréation sonore poursuit sa découverte de jeunes autrices. Nous revenons d'abord à Angoulême, vers les pépites du Créadoc, à la rencontre aujourd'hui de Chloé Dréhan et sa pièce 30 rue Oscar Castro. Puis nous irons au Conservatoire de Pantin pour écouter « Cendre », la composition d'Elio Volana de la classe d'électroacoustique de Marco Marini. Bonjour Chloé, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu aux auditeuristes de Radio Campus ?
Oui, bonjour Muriel, je suis Chloé Dréhan, je vis à Marseille actuellement. Je suis créatrice sonore, documentariste sonore. J'ai une formation en documentaire donc radiophonique au Créadoc que j'ai quittée il y a un an maintenant, où j'ai réalisé la pièce 30 rue Oscar Castro que vous allez entendre. Aujourd'hui, à Marseille, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Copie Carbone, un collectif de création sonore. Depuis plusieurs années même, avec lequel donc, on travaille ensemble. On a aussi bien nos projets collectifs, donc soit de création, d'organisation de séances d'écoute, d'ateliers, et nos projets individuels qui sont également portés par l'asso. Donc moi, aujourd'hui, je mène aussi bien des projets collectifs que individuels, des projets de création, des ateliers à destination de différents publics.
Ok, donc on va écouter 30 rue Oscar Castro, ta pièce réalisée dans le cadre du Créadoc. Et on se retrouve après.
Donc voilà, on se trouve devant le 30 rue Christophe Colomb.
Qu'est-ce qu'on voit ici devant, quand on se trouve dans
la
rue ?
Alors, il y a les deux couleurs, noir et rouge. Le sang de l'ouvrier et la révolution. Et donc, on voit des lettres Théâtre Aleph qui sont collées, scotchées, cloué sur un espèce de vieux morceau de bois, parce que je pense qu'au Théâtre Aleph, on fait du neuf avec du vieux. Et toutes les qualités et les défauts des gens sont les bienvenus. Voilà, donc déjà l'entrée, ça, c'est déjà quelque chose. Moi, la première fois où j'ai passé cette porte, j'étais avec une amie qui avait besoin de faire une thérapie. Donc je lui ai dit, mais non, pas une thérapie, mets ton argent au Théâtre Aleph. Et donc, elle est partie et moi je suis restée. Ça fait donc 20 ans que j'ai passé cette porte.
Je vais vous raconter l'histoire. Je suis chauffeur de taxi à Paris depuis des années. Et un jour, par hasard complètement, je trouve dans la rue monsieur Pierre Barreau. Pierre Barreau, je ne le connaissais pas du tout. Taxi, taxi, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour, ils sont montés dans la voiture. Et effectivement, il me dit, vous avez un accent. Je lui dis, oui, effectivement, je suis chilien. Ah bon, mais si chilien, mais c'est pas possible, la coïncidence. Parce que moi, je suis en train de faire un tournage d'un film qui va sortir dans quelques jours, dans quelques mois. Alors, si vous ne connaissez pas la troupe Alep, je vais vous la présenter.
Un, deux, Coralie là, Clément là-bas. François avec toi, avec Coralie.
Comme j'arrive à la porte de Saint-Cloud, dans un grand bar, il y avait beaucoup de personnes, il y avait au moins 17-25 personnes, tous des comédiens. Il y avait Oscar Castro. Oscar Castro, il est venu me voir, il me dit, mais c'est vrai, t'es chilien? Oui, je lui ai dit, je suis chilien. Mais comment ça se fait que tu n'es pas venu à mon théâtre? Mais viens faire un tour, peut-être un jour, tu pourras faire peut-être partie de la troupe Alep. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Bonsoir. L'entrée du théâtre.
C'est bien. Je ne sais pas si c'est bien, c'est ainsi. Allez-y.
À gauche, donc, c'est la caisse. C'est toujours un comédien qui accueille le public. Mais si on a plein de costumes à mettre et un maquillage très fort, on se relève.
On fait comme ça.
Alors la dame qui vient de passer, c'est bon.
Il y a une fréquence qui tourne un peu par ici.
Ouais, regarde, celle-là.
Je dirais que c'est une fréquence d'environ 320 Hz.
321.
Oscar Castro, le fondateur du théâtre Aleph, son histoire ressemble étrangement à l'histoire de mon père. Il a vécu une jeunesse à se cacher, à se méfier des gens, à ne plus parler sa langue. Et donc grâce au théâtre et aux mots, à l'humour, à la joie de vivre, cet homme a pu s'en sortir. Donc je me dis que c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect. Être dans ce lieu, c'est comme une protection. Je laisse tous mes soucis à la porte. Je viens pour me faire du bien. Pour être avec des compagnons de théâtre. Différent de mes amis de l'extérieur. Différent dans leur approche de la vie, différent dans leur métier, différent dans leur goût politique. Mais quelque chose nous rapproche, c'est le plaisir de jouer ensemble, de faire la pièce la plus belle possible, être les témoins de pendant une heure et quart d'une histoire souvent farfelue, souvent hors du temps, souvent souvent je ne sais pas quoi, mais qui nous permet de nous évader pour un long moment. Mmh. plus important au théâtre. On pourrait croire que c'est la scène, mais pas du tout. C'est la cuisine. Pourquoi la cuisine? Parce que quand on joue, on fait la bouffe. Donc souvent une soupe ou un chili con carne. Natacha et Oscar faisaient aussi le pain. Et Oscar avait l'habitude de dire que bientôt, on serait peut-être hôtel. Donc c'est notre endroit cachette ici. Un des endroits accueillants du théâtre. Donc là, on se trouve dans le bureau de Sylvie, la directrice du théâtre, comédienne, chorégraphe, danseuse.
En même temps que je travaillais aux Folies Bergères, j'avais 26 ans, j'ai rencontré Oscar Castro, le directeur du théâtre Aleph. J'ai fait un stage avec lui de théâtre. On a monté une pièce d'Aleph. Enfin, Oscar a monté avec nous, avec les stagiaires, une pièce du théâtre Aleph, L'Exilé Mateluna. J'avais un tout petit rôle, mais j'étais très contente. On l'a joué aux Zèbres à Belleville. Et puis Oscar, il m'a invité à dîner. Après, il m'a demandé si je voulais faire les chorégraphies dans sa prochaine création. Et j'ai dit d'accord. J'ai dit j'espère que j'en serai capable parce que je suis plutôt danseuse pour l'instant. Et après, on s'est plus quittés. Je me suis mariée avec lui en 1994. Et on a mené notre bateau Aleph ensemble pendant 34 ans.
Sur un côté, il y a tous les livres d'Oscar. Il y a toutes les pièces, le son des pièces, des accessoires des pièces.
Et là, cette photo, c'est quand lui, il était dans les camps.
Voilà.
C'était à cette période-là.
C'est un camp de concentration chilien à Santiago, où Oscar a été pendant 3 ans interné. Et en fait, sa maman s'est fait prendre, je passe un peu tous les détails, mais en tout cas, elle en rendre visite à son fils et on ne l'a jamais retrouvé. Voilà. Donc toutes les pièces d'Oscar, toute sa hantise de toute sa vie, c'est d'être à la recherche de sa maman et de prouver qu'elle a été tuée par... par ce gouvernement fasciste chilien de l'époque.
Silence ! Comptez-vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rompez.
El Teatro Aleph nació en 1967 en Santiago. El Oscar estaba estudiando periodismo y con algunos de sus amigos decidieron crear el Teatro Aleph. Le Théâtre Aleph est né en 1967 à Santiago. Oscar est alors étudiant en journalisme à l'Université catholique du Chili. Avec des amis, ils décident de monter un
teatro
de théâtre.
Era un humor típico de Chile, un poco picante.
Ensemble, ils écrivent et jouent des pièces à l'humour corrosif et satirique. Después del golpe de Estado, los alejanos decidieron seguir sus obras. Pero algunos fueron detenidos por su oposición en contra del gobierno de Pinochet. Après le coup d'État, les alejanos décident de continuer leurs œuvres. Mais leur prise de position contre le régime de Pinochet entraîne les arrestations de comédiens. Oscar, lui, ira dans plusieurs camps et terminera au camp de concentration de Rituque. En este campo allá estaba mi padre, que también era prisionero. Mon père était prisonnier là-bas aussi. El Oscar se improvisó también alcalde del campo de concentración. Oscar, lui, s'était improvisé maire du camp et jouait très bien son rôle. También con algunos otros prisioneros actuaban obras de teatro los viernes. Aussi, avec d'autres prisonniers, il jouait des pièces de théâtre le vendredi. Esta actividades se llamaba el Viernes Cultural. Todo el mundo lo esperaba, de los soldados y los prisioneros también. on retrouvait déjà l'humour corrosif du théâtre Aleph. Car en effet, certaines pièces avaient une double interprétation possible. Elles se moquaient des soldats et de la dictature, mais en même temps, elles passaient pour quelque chose d'assez innocent. Algunas de las obras eran claramente en contra del gobierno y también era un poco para reírse de los soldados. Après environ 2 ans au camp de concentration, un poco más de 2 años después, Oscar a été exilé en France. Que había llegado en retoque, el Oscar fue exiliado en Francia. Y antes de irse, dijo a mi padre, mais avant de partir, il a dit à mon père de le retrouver quand lui aussi arriverait à Paris. Car il en était sûr, son ami viendrait lui aussi en exil.
Yo lo conocí a Oscar aquí. Yo cuando quité mi país, yo no era político. Pero sí lo quité por necesidad, porque todo el mundo quitaba el país, todo el mundo se iba, todo el mundo y parte, en fait. Cuando tú sabes cómo está la dictadura, cuando tú ves que los militares son en la rue, la sola envidia que está es de partir. Y en fait, las piezas, las primeras piezas de Oscar Castro, c'était des piezas que él podía, quand même, raconter un peu sa vie, un peu après sa vie de prisionnier politique, y todas esas cosas-là. Horrible qu'il a pu vivre.
Je m'appelle François et Cindy. Je suis Camerounais, je suis conteur, musicien, comédien. Je vis en France depuis les années 2003. Vous savez, la vie des étrangers en France et en Europe est un peu compliquée et chacun porte comme une cicatrice, une histoire indélébile. J'ai traversé des moments un peu difficiles. Je vivais dans les squats, je vivais dans les lieux sous les ponts et tout. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé dans un squat dans le quartier à Ivry-sur-Seine. Un jour, je passais par la rue Christophe Colomb, j'ai vu qu'il y avait un théâtre. Et le jour que j'ai décidé de venir voir une pièce de théâtre, le théâtre Aleph, c'était une pièce qui s'appelait « L'Indien qui marche dans la mer ». Et comme j'ai vu cette pièce de théâtre, la tradition du théâtre Aleph, c'est qu'il y a un moment après représentation, il y a un repas qui a été offert, et en bas, il y a aussi une scène où les gens peuvent s'exprimer après la pièce de théâtre. Et là, j'ai rencontré Oscar, qui était le directeur du théâtre. Et la pièce que je suis venu voir Oscar pendant ses vacances était partie transformer cette pièce et a mis un rôle de conteur dans la pièce. Donc, quand on s'est rencontrés, il m'a présenté cette pièce en me disant que j'étais désormais recruté comme comédien de la compagnie de théâtre Aleph. J'étais très content et j'ai pris le texte et j'ai commencé à lire, étant bien sûr dans mon squat. Et un jour, Oscar m'avait demandé d'aller voir là où j'habitais. Je ne lui ai pas dit que j'étais dans un squat. Effectivement, j'étais dans un squat. Mais je ne vous dis pas, ça faisait plus de 2 ans qu'on m'avait coupé de l'eau, coupé l'électricité. Et le lendemain, quand je suis venu pour la répétition au théâtre, il m'a appelé dans son bureau. Et il m'a dit, mon ami, c'est très bien là où tu restes là-bas dans le squat, mais je préfère que tu restes ici dans mon bureau. Alors, dès ce jour-là, j'ai élu domicile dans le bureau de Oscar. Et donc, jusqu'au jour aujourd'hui où je vous parle, je suis dans le même bureau. J'habite là. Et depuis que je travaille avec le théâtre élève, j'habite dans le théâtre. Donc, je suis en même temps comme le gardien du théâtre. Je suis ici en famille, la grande famille du théâtre Aleph. C'est mon lieu de travail, mon lieu de vie, mon lieu de répétition. Et
vous préparez la salle avant le spectacle ?
Hein ?
Vous préparez la salle avant le spectacle ?
Ouais, il faut que tout ça soit nickel avant la représentation. On prépare la soupe après, donc il faut laisser tout prêt pour que quand le public descend, il trouve tout déjà organisé, les tables à place. Et après, ils n'ont qu'à s'asseoir et manger la soupe. C'est une tradition du théâtre.
Béné ! Allô, Béné ? Béné !
Oui !
Allô ?
Le public doit être à l'aise et quand il descend, il doit se sentir chez lui. C'est une manière de l'accueillir.
Voilà, donc si on ressort, on se retrouve dans les loges.
C'est la séance maquillage.
Ouais. On essaye.
En gris.
Cathy, c'est la Pascal.
Si Pascal, elle l'a fait.
Ah oui, en effet.
Les sourcils.
On m'avait dit broussailleux.
Pardon?
Ah oui. De toute façon, chacun va aller faire sa mise là-haut là, pour voir si tout le monde a sa cale.
Oh, mais Béné, tu te marques.
Ah oui, du coup, on monte, avec le béret sur la tête.
Mais je sais plus faire. Hein.
C'est un endroit où on se concentre, mais où souvent on est surexcité avant de monter sur scène, donc il y a souvent des fous rires.
Moi, je mets 3 minutes pour me maquiller, elle met 3 heures. Comment ça se fait? Soit je sais pas faire,
Inconsciente. Ouais, vas-y.
Toi, t'as mis le noir en bas.
Ouais, t'as mis le noir et du bleu.
Donc, toi, tu sais te maquiller, moi, je
sais. Bah, c'est un peu l'impro aussi.
C'est un espace de transition. Quand on est ici, c'est que bientôt ça va commencer.
Celui-là, il est bien, il est pas trop fort, quoi.
Maxi.
La bougie. Je vais dire.
On sort des loges, on repasse par le salon Marietta et on monte sur scène.
Bienvenue au Théâtre Aleph.
On a le grand plaisir de vous présenter une pièce d'Oscar, comme vous avez pu le lire dans le programme, qui n'a jamais été montée en France, qu'il a écrit il y a longtemps en prison. Et qu'on avait travaillé tous les deux pour un atelier, notre atelier ado l'année dernière. Et que j'ai dû terminer tout seul, parce qu'il est parti trop vite. Et comme le veut le rituel du Théâtre Aleph, on va faire le petit rituel avec la bougie. C'est-à-dire chacun de vous va inviter, s'il a envie, un proche qui n'est plus de ce monde, pour l'inviter à partager cette soirée et qui protège le travail, qui vous protège, vous, nous. Donc, tous ceux qui veulent participer avec nous, c'est une petite cérémonie qu'on fait sur le plateau. Vous êtes bienvenus. Mmh. Donc, j'appelle les actrices, les gens d'alerte qui sont là. On fait un pont, on se donne la main.
Oui, moi je veux bien la paix, mais laquelle, capitaine ?
La paix, par définition, c'est l'absence de toute perturbation. Ce que je veux, c'est la paix, quelle qu'elle soit, pour pouvoir poursuivre notre mission.
Oui, moi aussi je la veux, la paix, hein. On la veut toutes.
Je ne savais pas qu'il pouvait être aussi présent en étant physiquement absent. Je pense que le fait qu'on ait fait la cérémonie de son enterrement sur le plateau, c'est-à-dire qu'on a pesé son cercueil sur le plateau, c'était en petit comité. Là, il y a quelque chose qu'on a réussi. C'est-à-dire que l'Aleph puisse exister sans Oscar. Et le fait qu'il soit sorti de son théâtre, dans son cercueil, enfin, je pense que ça, c'est un truc incroyable.
Et on vous attend pour continuer à partager. Merci beaucoup.
Thank you.
Voilà. Sinon, moi, quand je pars tard le soir d'ici, souvent le dernier, j'essaie toujours de laisser une petite lumière allumée. Ça, c'est la lumière pour le fantôme. Hein. Vous connaissez les histoires dans le théâtre. Le fantôme de l'opéra. Je laisse toujours une lumière. Dans un théâtre. Des fois, on devrait rentrer à la maison, mais là, le temps, il est complètement distordu, des fois. Comme disait Oscar, toujours, ici, le temps ne passe pas, il tourne. C'est ça qui est bien. Ça veut dire que tout revient. Mais c'est ça, la nef. Hein. C'est que le début se mélange avec la fin se mélange avec le début. C'est quelque chose qui tourne et qui ne fait pas que passer. Ça veut dire qu'il tourne, on a le temps de le revoir venir et de réfléchir.
Mais prenez un petit peu au sérieux ce qu'on fait, merde! C'est pas la démocratie, ouais, on a dit qu'on va sortir, on va recommencer. Aïe, aïe, aïe.
C'était 30 rue Oscar Castro. Avec Catherine, Roberto, Sylvie, Cathy, François, Mériel, Natacha, Anaï, Samuel et Oscar. Merci au Théâtre Aleph et à toutes les personnes qui m'ont accompagnée dans ce travail. À mon père, arrivé au théâtre par hasard. Mixage Hugo Philippon. Un documentaire de Chloé Dréan, Créadoc, 2022.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
Dans cette pièce, donc 30 rue Oscar Castro, on comprend à la fin le lien qui te relie à ce théâtre Aleph, hein, c'est ton père. Donc, à l'intérieur de ce sujet, une fois que tu l'as eu choisi, je me suis demandé si tu avais travaillé en allant plutôt dans ce que j'appelle à la pêche ou à la chasse. C'est-à-dire à la pêche, on part avec un filet, on ramasse beaucoup de choses, on a des heures de rush. Hein. Et ensuite, on construit une narration à l'intérieur de ça, ou bien à la chasse, où là, on veut tirer sur quelque chose auquel qu'on vise et auquel on a déjà réfléchi et on l'attend et on attend qu'il se produise. Dans ce cas-là, on a moins de rush et on a un petit peu dans l'intention déjà la narration en tête. Donc, comment toi, tu as travaillé sur ce sujet ?
Eh bien, je dirais un petit peu les deux, au sens où, oui, j'ai connu ce théâtre par mon père, qui arrivait par hasard au théâtre, qui n'avait jamais été au théâtre, et c'était un habitant d'Ivry à l'époque, donc il habitait juste à côté. Et lui, c'était une période de vie très compliquée pour lui, donc c'est vraiment par ce prisme-là que j'ai découvert le théâtre Aleph. Qui lui a vraiment redonné vie et je pense qu'il y a rencontré là-bas une famille qui l'a accueilli et voilà. Et donc, en fait, c'est par ce biais-là que moi, je suis entrée. J'ai découvert le théâtre, j'ai découvert l'équipe et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, l'histoire de mon père était très liée aux autres histoires qui habitent ce théâtre aujourd'hui et qu'en fait, beaucoup des personnes qui sont au théâtre aujourd'hui sont arrivées un jour par hasard aussi. Ont souvent des parcours de vie compliqués, qu'ils soient liés à l'exil ou pas. Et aussi, autre chose que partagent ou ne partagent pas ces personnes-là, c'est que c'est un lieu qui accueille des personnes très, très différentes, de milieux sociaux, culturels très différents, valeurs très différentes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée parce que c'est pas un lieu qui, comme il en existe aujourd'hui beaucoup, qui se revendique créateur de liens sociaux, de fait qu'il l'est en fait. C'est un lieu qui rassemble beaucoup de personnes qui ne se seraient jamais rencontrées par hasard dans la vie. Et là, il y a un lieu où les gens passent la porte, restent 20 ans et cohabitent les uns les unes à côté des autres. Et ça m'a beaucoup fascinée en fait, parce qu'il y a beaucoup de moments où je me disais, mais comment ces personnes-là qui n'ont vraiment rien en commun arrivent à construire ensemble? Et donc, je crois que c'était vraiment là où pour moi, il y avait quelque chose d'important qui se joue, parce que j'ai l'impression que dans nos sociétés, c'est quelque chose qui existe de moins en moins, même si voilà, c'est dans les politiques culturelles et souvent on prétend essayer de le faire, mais ça fonctionne souvent pas ou très peu. Et donc, il y avait cet aspect-là où le Théâtre Aleph, c'est à la fois un lieu d'art, de culture, mais c'est aussi un lieu d'accueil social. Enfin, il y a quelque chose qui se joue aussi bien pour les habitants de ce quartier, dans la ville d'Ivry, à cet endroit-là. Donc, je venais y chercher ça. J'avais aussi très vite, quand j'ai découvert ce théâtre, je me suis rendu compte que c'est un lieu qui a une histoire assez incroyable, mais aussi que les personnes qui l'habitent aujourd'hui, qui peut-être sont des figures moins visibles, ou en tout cas visibilisées que celles d'Oscar, avaient elles aussi parfois des histoires très importantes. Et j'avais en fait envie de porter les voix de plusieurs personnes, et j'en ai enregistré beaucoup d'autres, mais qui habitent le théâtre aujourd'hui et qui pour moi font aussi ce théâtre-là. Mais pour répondre très honnêtement à ta question, enfin ça c'était donc mes envies, il y avait quand même ces choses-là qui étaient définies, et puis après d'autres choses de départ. C'était un moment où j'avais avant beaucoup enregistré de voix et j'étais un peu frustrée, j'avais vraiment envie de justement m'intéresser aux sons d'ambiance, je me demandais beaucoup enfin comment recréer un espace en son. Donc ça, c'est ce qui a fait aussi que j'ai souhaité vraiment travailler dans ce lieu-là et dans un huis clos aussi. Et après, par contre, j'avais aussi envie d'expérimenter plein de choses et de me laisser la liberté. Je n'ai pas tout écrit avant le tournage et j'ai été très libre. Enfin, j'ai énormément enregistré. J'ai passé 10 jours en immersion. Au départ, je pensais passer quelques heures un peu chaque jour avec des jours de pause. Et en fait, une fois arrivée, j'ai jamais réussi à repartir. J'arrivais très tôt le matin, je repartais très tard le soir. Et ça, c'est ma manière de travailler. Je l'ai découvert après, mais j'ai aussi une tendance à beaucoup, beaucoup enregistrer. Et, là, c'était la première fois que ça m'arrivait. Maintenant, je me rends compte que j'ai besoin de ça, d'avoir une palette de peinture. Mais ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui aussi n'étaient pas écrites et qui... Ça m'a servi comme desservi. J'étais très heureuse d'avoir tous ces sons, toutes ces voix. Enfin, c'était astronomique à la fin du tournage. Et en même temps, il y avait aussi tout à réécrire au montage. Donc, voilà peut-être une première piste de réponse. Même si il y avait quelque chose qui était déjà dessiné au départ, d'avoir cette espèce de... cette chorale. Enfin, je voulais des voix chorales, recréer un espace avec des sons et qui est quand même ce fil rouge de la grande histoire du théâtre Aleph qui est lié à l'histoire et à la dictature du Chili. Donc ça, j'avais envie de ça. J'avais aussi envie de poser ces questions-là, moi, qui m'anime, comment l'art, bon, c'est une grande phrase, mais est politique, ou enfin, en tout cas est une nécessité politique à certains moments. Et enfin, avant de faire du documentaire radio, j'ai une formation aussi en médiation culturelle où je travaillais en prison pour des projets audiovisuels. Et donc, c'est des questions qui m'animaient déjà. Donc, je ne suis pas arrivée là que par mon père et par hasard. Il y avait plein de liens que j'avais envie de relier les uns aux autres. Voilà.
Tu as dit quelques mots qui, effectivement, nous parlent beaucoup. Tu as parlé de huis clos. Tu as parlé aussi de chorale. Alors, plus techniquement, sur la prise de son, il y a beaucoup d'ambiances qui sont très belles et on ressent effectivement totalement cet espace, ce lieu, et puis l'ambiance entre les personnes, donc il y a beaucoup de situations. Ma question, c'était tout à fait techniquement, est-ce que tu as pris vraiment du temps des ambiances en tant que telles? Est-ce que tu as pris du son, je dirais, avec les voix et les ambiances en même temps dans des situations telles que tu les vivais dans ton immersion? Ou est-ce que tu as fait des entretiens aussi à blanc que tu as ensuite posé sur des ambiances et et différents plans ensuite derrière?
Alors pour enfin concernant oui les prises de son de 30 rue Oscar Castro, ça c'est des questions que je me suis beaucoup posées en amont avant d'arriver au théâtre. Donc j'avais envie d'expérimenter beaucoup de choses, je savais pas si ça allait fonctionner. Mais je m'étais mis beaucoup de contraintes. Déjà, j'avais décidé d'utiliser un seul micro, c'était un couple RTF, un couple de Shops. Et donc d'enregistrer les ambiances avec et également les voix avec une seule capsule. Donc finalement, en fait, j'ai enregistré des voix en mono, mais en tout cas d'utiliser vraiment ce seul micro-là. Et après, pour les sons, j'ai envisagé ça comme un terrain de jeu. Donc j'ai enregistré des choses très différentes, à la fois des ambiances à des moments où voilà, il se passait des choses spécifiques. Je ne sais pas, il y a ce moment. À la billetterie, où voilà, c'était vraiment un soir de représentation, ou comme dans les coulisses, ou des moments où il y a des interactions en fait entre plusieurs personnes qui seraient impossibles à entièrement recréer, les moments de représentation. Donc ça, c'est des prises de son enfin, de moments de vie au théâtre que j'ai faites. Ensuite, j'ai enregistré aussi, et ça m'a beaucoup aidé au montage de sons isolés quand il y avait personne dans le théâtre. Ce qui m'a permis aussi de recréer beaucoup d'ambiance. Et ça, je me suis beaucoup amusée. Enfin, ça a été vraiment, le montage a été très agréable parce que c'était, oui, comme une palette de peinture où je bricolais, en fait. Et j'ai vraiment eu l'impression je connais par cœur cet espace et de pouvoir refabriquer l'espace comme je l'entends. Et concernant les voix, alors, j'avais imaginé quelque chose. Bon, c'était un petit pari. C'est que j'avais décidé d'enregistrer des personnes sans être présente. Donc, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, mais enfin, ça partait quand même d'une envie très précise qui est que on est dans un théâtre, dans un lieu de représentation. Et donc, j'avais envie de poser le micro sur la scène, ou alors s'il y avait d'autres espaces du théâtre qui étaient importants pour les personnes que j'allais enregistrer, de placer le micro dans ces pièces-là. Et ensuite, j'avais préparé une enveloppe avec des questions qui étaient la même pour tout le monde. Et je laissais les personnes seules dans cette situation avec un temps précis d'enregistrement. Et mon envie initiale, je m'étais dit, bah, peut-être que ça pourrait donner quelque chose d'intéressant, que ces personnes ne s'adressent pas à moi, mais s'adressent finalement, enfin, de placer le micro face au public. Et donc, elle s'adresse à plutôt ce qui pourrait être le public, ou alors quelque chose de beaucoup plus introspectif à elle-même. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner. C'était un peu des surprises que je découvrais tous les soirs à 1 h du matin quand je prenais le dernier métro et que j'écoutais. Et en fait, parfois, ça fonctionnait très bien. Par exemple, Catherine, l'enregistrement qu'on entend, Catherine, c'est la personne qui nous mène à travers les différents espaces du théâtre. Et il y a eu un très bel enregistrement, enfin, que j'aurais pu laisser se dérouler, mais où elle est partie vraiment dans quelque chose de très intérieur et introspectif, qui m'a beaucoup plu, où j'avais vraiment l'impression qu'elle était en fait sur scène, quoi, qu'il y avait quelque chose de l'ordre du jeu qui se jouait. Et il y a d'autres choses enfin, qui ont été enregistrées où j'ai été frustrée parce que je me disais, bah oui, si j'avais été présente, on aurait pu creuser et les personnes se retiennent, quoi. Donc ça a été très différent selon les personnes. Et il y a des personnes qui se sont emparées de ça avec vraiment beaucoup d'envie et parfois avec besoin. Par exemple, François qui m'a dit, voilà, moi, je veux qu'on dispose le micro dans ma chambre, qui est l'ancien bureau d'Oscar et qui était enregistré pendant très longtemps. Donc ça, c'était pour les voix. Et même si au début c'était difficile parce que c'était pas, enfin, évidemment, je me confrontais à des matériaux qui n'étaient pas ceux finalement que j'avais forcément envie d'obtenir, mais j'ai décidé de m'y tenir jusqu'à la fin, en me disant que voilà, on verrait bien ce que ça donnerait. Je pense que c'est, oui, principalement de cette manière-là que j'ai travaillé les sons. Et aussi, voilà, j'ai vraiment passé beaucoup de temps. Et ça, je pense que ça a joué. Au début, j'avais un peu peur. Je me disais, ah, c'est n'importe quoi. Je fais ce qu'il ne faut pas faire habituellement et je me mets à enregistrer tout le temps. Et en fait, bah, ce n'était pas le cas. Je n'enregistrais pas tout le temps. Par contre, j'étais présente et au fur et à mesure des jours aussi, ma présence et les micros étaient se fondaient de plus en plus aussi dans l'espace du théâtre et étaient de plus en plus acceptés. Donc je pense que ça a été un temps important.
Absolument. Et puis cette variété justement de situations de prise de son et de modalités que je ne connaissais pas, je trouve, s'entend beaucoup dans la diversité finalement de ce que tu as rapporté et de la proximité plus ou moins individuelle, personnelle ou plus collective qu'on peut avoir avec les personnages et avec le lieu. Donc bravo.
Merci beaucoup.
Dernière petite question, comment t'as choisi le titre ?
Alors, j'ai choisi le titre par rapport à quelque chose que j'ai enregistré mais que j'ai pas laissé au montage. C'était un enregistrement que j'avais fait de Catherine, donc la femme qui nous mène à travers les différents espaces du théâtre. Au moment où on se trouvait dans la rue, et elle me décrivait la façade du théâtre. Et en fait, je ne sais plus exactement ce qu'elle me dit, mais c'est un moment où elle m'a fait une blague en me disant aujourd'hui, en fait, cette rue s'appelle. Enfin, l'adresse du théâtre, c'est le 30 rue Christophe Colomb. Et donc, elle me parlait de l'absurdité de cette adresse par rapport à l'histoire de ce lieu. Et en fait, c'est quelque chose qui, très sérieusement, pour le coup, a été envisagé, je crois, va se faire. Enfin, la rue va être renommée peut-être Oscar Cassereau. Et donc, voilà, enfin, c'est suite à cet échange-là que j'ai eu avec elle que j'ai décidé de nommer le documentaire comme ça. Aussi parce que, bah, pour moi, cette création, c'est vraiment le portrait d'un sonore d'un lieu. Donc, en fait, 30 rue Oscar Cassereau, voilà, ça désigne une adresse, une localisation. Et ensuite, j'ai décidé que figure le nom d'Oscar dans le titre. Parce que ça a été vraiment une surprise au tournage. Avant de tourner, je ne pensais pas du tout que le documentaire parlerait autant d'Oscar. Et en fait, moi, je suis arrivée au théâtre un an après sa mort. Et dans les enregistrements que j'ai fait des personnes que j'ai enregistrées, enfin, pendant lesquelles, comme je l'ai expliqué, je n'étais pas présente, quasiment chaque personne a parlé très longuement d'Oscar parce que c'était voilà, un moment en fait, de l'histoire du théâtre où sa présence c'était un an après sa mort et c'était quelque chose se sentait beaucoup, qui était très présent. Et il y avait aussi un besoin de prendre la parole par rapport à ça et en mémoire de cet homme-là qui a notamment qui a participé à la création de la troupe du théâtre dès ses débuts en 67 à Santiago, au Chili, puis après dans les camps sous Pinochet et quand ensuite il a été exilé en France quelques années plus tard. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire apparaître son nom parce qu'en fait... Contre mes envies un peu initiales, enfin en tout cas ce que je pensais, voilà, il y a un portrait en creux d'Oscar Cassereau qui se fait à travers tout le documentaire. Parce que c'était aussi une nécessité pour les personnes que j'ai enregistrées.
Absolument, ça se sent bien. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un à un moment qui parle du fantôme, du fantôme toujours présent dans un théâtre. Et je trouve qu'il apparaît vraiment comme ça dans ton documentaire. Voilà, donc ce que je voulais te demander aussi, Chloé, c'est est-ce que tu as d'autres projets en cours, d'autres choses qu'on pourra écouter dans quelques temps et sur quoi tu travailles en ce moment ?
Oui, j'ai d'autres projets en cours. J'en ai notamment un qui me tient à cœur, qui est en cours depuis plusieurs années. N'a rien à voir avec celui-ci. où en fait je travaille un documentaire unitaire d'une heure sur l'imaginaire qui est lié à l'épilepsie, la maladie, où ça sera aussi une forme chorale mais très différente. C'est à la fois des entretiens en situation ou non avec des personnes qui souvent ont des épilepsies lourdes, des archives radiophoniques, une mise en onde d'une bande dessinée, des textes. Voilà, donc c'est en cours et en attente de financement pour terminer ce projet. Et voilà, après j'ai plein d'autres choses, un projet de carte sonore bah, qui lui est en ligne, que je mène depuis des années avec une amie qui s'appelle Nouvelle Place. Et en fait, bah, qui est disponible en ligne. On travaille avec des groupes de femmes qui imaginent un lieu de leur quartier dans le monde de demain sous forme de fiction sonore. Et donc, c'est à la fois un travail de cartographie sensible et de création sonore et qui questionne bah, qu'est-ce qu'être une femme en fait dans l'espace public aujourd'hui. Donc voilà, c'est deux projets notamment qui m'animent et puis après il y a plein d'autres choses à Tanger. Voilà, en cours.
Et on peut écouter ce qui a déjà été terminé, à quel endroit?
Alors j'ai une page sur SoundCloud où voilà, sur bah, mon nom, Chloé Dréan, où il y a de nombreuses créations qui sont disponibles. Voilà. Et sur le site Nouvelle Place.
Ben, merci beaucoup, Chloé. Et
Merci à toi.
on sera content d'écouter tes nouvelles pièces quand elles sortiront.
Merci beaucoup.
Nous écoutons maintenant Cendre d'Elio Volana, élève de la classe d'électroacoustique de Marco Marini au conservatoire de Pantin.
Thank you. Nous venons d'écouter Cendre de Elio Volana. Alors, Elio, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu à nos auditrices ?
Oui, bonjour. Merci de m'avoir écouté. Donc, je suis Elio Volana. Je suis une artiste à l'intersection de l'installation et de la création sonore et de la performance. Et ce qui lie un peu toutes mes propositions, qu'elles soient visuelles ou autres, il y a toujours une prégnance du sonore. Et je suis diplômé des Beaux-Arts et j'étudie actuellement la composition électroacoustique. Et là, la pièce qu'on vient d'écouter, Cendre, du coup, c'est une composition qui est électroacoustique, qui a été pensée pour être diffusée sur un ensemble de haut-parleurs. Et du coup, cette composition électroacoustique, elle est en fait... Quand on compose de la musique électroacoustique, on peut avoir tendance à s'intéresser vraiment à l'échelle du son, c'est-à-dire vraiment à l'objet sonore, à sa texture, etc. Et puis à partir ensuite du travail du son, à penser ouais, voilà, dans quelle direction et quelles articulations ça va nous amener. Et là, cette pièce, même si elle convoque des techniques qu'on pourrait appeler électroacoustiques, je l'ai composée de manière presque... classique, on pourrait dire, c'est-à-dire que j'étais sur le terrain, donc en manifestation, en prenant des enregistrements sonores, mais la pièce se formait déjà dans ma tête, en tout cas, comme si je la chantais un petit peu, et donc j'allais à chacune des manifestations avec un peu une idée des sons que j'avais envie d'enregistrer, justement pour... donner à entendre cette pièce qui était une maquette qui existait comme telle dans mon esprit, mais qui avait besoin de se matérialiser. Et du coup, c'est une pièce qui volontairement passe par plein d'énergies un petit peu différentes, parce que je pense que j'ai voulu faire... peut-être se superposer ou en tout cas se faire communiquer différentes temporalités qu'on peut retrouver selon moi, dans la lutte, avec des moments de peut-être d'euphorie, de galvanisation collective et d'autres moments plutôt de se sentir esselé ou de se sentir menacé, oppressé aussi. Et donc il y avait un peu un aller-retour comme ça que je voulais traduire en son, dans toutes ces différentes temporalités qui caractérisent ce moment de la lutte et qui s'est manifesté aussi dans le travail du sonore avec, comment dire, avec des questions aussi de proche, loin. C'est-à-dire que j'aimais bien essayer d'emporter l'oreille de mes auditrices assez loin, avec une espèce de voile comme ça devant l'oreille, avec quelque chose d'assez sourd. On ne sait pas vraiment si c'est un mariage, une manifestation. En tout cas, il y a une masse informe. Et des moments, on est vraiment en proximité absolue avec ce qui est en train de se passer. Donc, ça m'intéressait de jouer avec toutes ces caractéristiques qu'on pouvait retrouver un peu, enfin que moi je retrouvais dans mon expérience des manifestations, en tout cas.
Justement, dans la composition de la pièce, il y a un côté de déroulement qui alterne effectivement des moments proches, loin, des rythmes différents. Et il y a finalement, comme vous le disiez, une composition quasiment classique, comme s'il y avait plusieurs mouvements. C'est quelque chose qui a été conçu dès l'amont. C'est quelque chose qui s'est imposé dans le travail. Oui. Comment c'est intervenu ?
C'est un petit peu un mélange des deux, mais déjà la composition, en tout cas, elle existait plus ou moins dans ma tête. En fait, on entend des espèces de carnix, c'est des espèces de vuvuzela en plastique bleu qu'un bloc syndical ramenait à chaque manifestation et qui en fait un bruit, vraiment une note tenue qui est assez insupportable. Quand on est en solo face à l'objet, mais en fait pris dans une masse, c'est assez impressionnant. Et en fait, j'avais envie de toute façon de faire une ouverture avec toutes ces nappes sonores comme ça qui venaient de très loin et qui se rapprochaient. Et ensuite, je pense que la pièce, même si elle existait, sa structure dans ma tête, le travail en studio, de découvrir des limites aussi de ce matériel et de découvrir un peu des heureux hasards, a fait que j'ai fait quelques choix de mouvements et qui se sont manifestés en fait déjà sur cette ouverture avec tous ces instruments. En fait, je me suis rendu compte que comme c'était des enregistrements de terrain, il y avait tout le temps le bruit qui était derrière et c'était assez compliqué au final de raconter autre chose que l'anecdote, c'est-à-dire la situation qui se déroulait. Et du coup, j'ai récupéré ces petites trompettes et je les ai enregistrées en solo, en studio, pour pouvoir les retravailler. Et ce qui a amené dans la construction de ce premier mouvement, en fait, je voyais vraiment comme un orchestre mélancolique qui essayait de s'accorder, quoi, et qui se définissait petit à petit en tant que marée humaine. Et ensuite, je me suis retrouvé avec un son que j'avais envie d'entendre particulièrement, qui était l'entrechoquement des boucliers des CRS, donc il y a une espèce de chorégraphie sociale assez terrifiante, mais dont je n'avais pas de trace audio personnellement. Donc c'est le seul sample que je suis allé chercher sur Internet, dans une vidéo YouTube pour le coup, d'autres manifestations. Et ça, ce moment, en fait, ça m'a permis un petit peu aussi de construire une articulation vers un autre mouvement. Donc on est d'abord dans quelque chose de très loin et fantomatique, ensuite qui nous vient par-dessus, et ensuite une espèce de rupture en fait par cette violence policière d'entrechoquement de boucliers. Et la partie studio ensuite qui vient après, où on entend plein de petits cliquetis et des tchitchitchits. En fait, il y a certes un côté studio et cyborg qu'on n'arrive pas très bien à identifier, mais en fait, c'est des sons de manifestation, que ce soit des explosions, des débris ou ce genre de choses, mais qui sont travaillés ce qu'on appelle en synthèse granulaire, c'est-à-dire qu'ils sont découpés en petits morceaux qui sont tellement minuscules, donc après je viens retravailler, qu'ils sont pas reconnaissables, même si en fait à la base ce sont bien des fragments. Et ça, c'était ces petits cliquetis aussi, c'était une intention que j'ai un mouvement comme ça qui soit peut-être après toute la galvanisation, puis la confrontation, un moment presque abstrait et à la frontière. On ne sait pas si c'est quelque chose de. Si on est dans la réalité ou dans quelque chose d'autre qui nous échappe. Donc, c'était l'intention avec ce mouvement-là. Puis un retour quand même avec l'anecdote qui revient de la manifestation. Donc ça m'intéressait de passer par des mouvements qui sont assez clairs, je pense, mais tout en étant toujours sur le fil un petit peu entre où est-ce qu'on est en fait. et ça, c'est une idée qui soutient quand même tous ces mouvements, je pense.
C'est étonnant parce qu'effectivement, le mouvement des cliquetis, il est à la fois abstrait et en même temps, moi, je l'ai ressenti comme assez concret, c'est-à-dire il est très proche du corps. C'est un moment comme si on s'était beaucoup rapproché justement d'un manifestant ou de soi-même, voilà, jusqu'à être dans son cercle très très proche, et ça a quelque chose d'une solitude là au milieu de la foule qui est assez à la fois angoissant et en même temps très presque intime, quoi. Je trouve que ça donne une image très étonnante.
Bah en fait, c'était une j'en ai pas trop parlé au début, mais il y a une au niveau de la technique, de comment elle a été composée, moi, je pense que je change pas mal mes manières de travailler suivant ce que je fais comme projet musical. Et là, la manière de travailler sur cette pièce, elle accorde une grande importance au filtrage. Donc, le filtrage, c'est en musique, c'est le contenu de fréquence, donc plutôt dans les graves, plutôt dans les médiums, plutôt dans les aigus, qu'on met en avant ou alors qu'on fait disparaître un petit peu. Et en fait, c'est ça qui, techniquement, c'est le gros du travail là-dessus. Et en fait, c'est-à-dire que quand quelque chose est loin, c'est basiquement on a perdu les aigus et le médium et on entend quelque chose d'assez sourd. Et au contraire, quand on n'entend plus que des sons très comme ça qui nous chatouillent, sans leur contenu fréquentiel dans le bas, on arrive à être dans le très proche de l'oreille. Et ça, c'était une intention avec ces cliquetis aussi. Il y a un filtrage qui est très radical, c'est-à-dire que je garde vraiment que ces petits cliquetis qui sont pour certains d'entre eux d'ailleurs, qu'on peut ne pas entendre aussi, tellement il y en a qui sont dans les chatouillements. Mais il y a vraiment, physiquement, hein, c'est que c'est l'intention et c'est poétique, mais physiquement, il y a aussi le son qui a l'air de nous chatouiller les oreilles. Et ça, c'est ce mouvement-là qui met donc qui est dans ce contenu de fréquence. Mais en fait, le début a été un peu composé comme un orchestre classique. C'est-à-dire que quand on est dans un orchestre philharmonique, alors moi, je n'écoute pas vraiment de musique. Enfin, je vais rarement voir des orchestres philharmoniques ou quoi. Mais en fait, où sont placés les violons, où sont placés les différents instruments, ça correspond certes à leur volume sonore, mais aussi à leur contenu spectral, leur contenu de fréquence pour qu'on entende bien. Et en fait, quand j'ai superposé plein de sons de ces espèces de trompettes, j'ai fait attention dans mon montage et dans le filtrage à ce que chacune ait sa bonne place, c'est-à-dire elle va être sur telle bande de fréquence, donc on va dire plutôt dans les bas médiums, elle va plutôt être là, elle va plutôt être là, pour avoir quelque chose qui soit très enveloppant, mais à la fois très orchestral, c'est-à-dire qu'on entend un peu ce qui se passe. Donc très très loin, qui arrive et qui est vraiment partout, puis qui finalement s'éloigne, et pour ensuite revenir, mais vraiment à proximité, très très intime avec l'oreille. Donc il y a vraiment un jeu proche-loin qui est aussi bien sur les anecdotes qui sont enregistrées, c'est-à-dire est-ce que c'est de loin, est-ce que c'est l'instrument en studio, mais aussi sur ces procédés techniques qui permettent d'éloigner ou de rapprocher notre oreille d'une source, quoi.
C'est
voilà.
Tout à fait passionnant. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et alors, la pièce, elle peut faire partie donc d'une installation ou d'être donnée en tout cas dans un dispositif avec plusieurs haut-parleurs. Comment est-ce que ça s'est déjà réalisé et comment ça a été présenté?
Alors, c'est une pièce qui a été diffusée plusieurs fois de manière radiophonique. Elle a été diffusée plusieurs fois. Je l'ai aussi interprétée sur ce qu'on appelle un acousmonium dans le jargon de la musique concrète électroacoustique, c'est-à-dire un ensemble de haut-parleurs, donc d'une trentaine de haut-parleurs, et où on spatialise la composition, c'est-à-dire typiquement, on appuie sur play, donc le morceau est préexistant, donc on n'a plus qu'à le lancer, mais ensuite on vient ouvrir tel ou tel couple de haut-parleurs pour rendre compte des mouvements présents dans la pièce dans le dispositif, voilà. Mais par contre, donc en dehors de ces diffusions radiophoniques et de ces diffusions comme ça, j'ai pas encore mis la pièce sur mon site internet parce que justement je suis en train de réfléchir à comment l'intégrer dans un corpus peut-être plus large aussi, et où, comme je travaille beaucoup sur les questions de lutte et de manifestation, ça m'arrive aussi de venir utiliser des fragments de cette composition pour d'autres installations, etc. Donc c'est un objet qui est encore en train de vivre, et où je me pose encore les questions de comment, en dehors de ces diffusions radiophoniques et de diffusion en live, je suis encore en train de réfléchir à comment elle va s'intégrer dans d'autres projets parce que c'est voilà.
Et alors, où est-ce qu'on peut écouter d'autres œuvres?
Sur mon site internet Elio Volana, il y a tout mon travail qui est répertorié dessus et sur mon Bandcamp du même nom. Mais voilà, comme je suis une artiste à l'intersection de différentes pratiques, je pense que mon site internet, c'est pas mal parce que du coup, comme le sonore se retrouve aussi bien dans mes performances que dans mes installations, que dans mes concerts, c'est plus centralisé là-dessus.
Ok, parfait. Bah, on ira s'y rendre. Merci beaucoup, Elio. Et puis, au plaisir d'écouter de nouvelles compositions.
Merci. Merci beaucoup.
C'est la fin de cette émission que vous pouvez écouter aussi sur le site de Radio Campus Paris et sur toutes vos plateformes de podcast si vous vous abonnez. La semaine prochaine, 16 juin, je vous ferai découvrir Le chien dans la maison de Pauline Nulpart. À bientôt sur nos ondes. Bonne semaine.